Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Breakfast Ciné Club. Aujourd'hui, on vous parle d'un film que le monde entier attend avec impatience, L'Odyssée de Christopher Nolan. Pour m'accompagner, comme toujours, Rami et Joe, qui ont très hâte de vous dire ce qu'ils ont pensé du film. Le Breakfast Ciné Club, c'est maintenant.
Oui.
Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions ?
C'est la fin du cinéma.
Non, mais je crois que le cinéma existera toujours.
Breakfast. Vous n'allez pas dans le cinéma, vous ?
Breakfast.
Ciné.
Club.
Breakfast Ciné Club. Mais avant de vous raconter plein de choses absolument passionnantes autour du film, un petit résumé s'impose, hein, n'est-ce pas?
Ouais.
On est d'accord.
Petit résumé de l'histoire de l'humanité.
Exactement, parce que L'Odyssée, déjà, c'est le 13e long métrage de Christopher Nolan. C'est important de le rappeler. Le réalisateur de Memento, de The Dark Knight ou encore d'Interstellar, hein, des petits films, n'est-ce pas?
La phrase est folle. Memento, The Dark Knight, Interstellar, c'est top 100 IMDb. Il a tous les films.
C'est bien. Mais la particularité cette fois-ci, c'est qu'il revient avec un film tourné entièrement avec des caméras IMAX, une première dans toute l'histoire du cinéma.
Et ça se sent.
Le mec passe son temps à marquer l'histoire du cinéma, c'est absolument fou.
C'est un hobby, il adore.
Non, parce que déjà à l'époque de The Dark Knight, c'était le premier à utiliser des caméras IMAX dans un blockbuster de cette envergure. Et petit à petit, au fur et à mesure des films, il en a rajouté toujours un peu plus. Et là, il s'est dit, c'est le moment où on
faire tout le film avec. Le son, c'est de la folie.
C'est une dinguerie. Ouais. Alors, L'Odyssée, c'est l'adaptation, évidemment, de l'iconique épopée d'Homère. Et Christopher Nolan, il va donner vie à des personnages iconiques et à ce récit mythique dans une dimension encore jamais réalisée. Et vraiment, c'est impressionnant. C'est pas une approche figée dans l'Antiquité. Cette version de l'Odyssée, elle a été conçue comme un véritable spectacle pour tous, porté par une action intense, des paysages spectaculaires, vraiment. Incroyable. Et une production plus vraie que nature que seul Christopher Nolan pouvait amener sur grand écran. L'Odyssée se déroule à une époque où on a des monstres, des géants, des cyclopes et des créatures marines qui font pleinement partie du réel. Ils ne relèvent ni du mythe ni de la légende, mais constituent des épreuves bien concrètes. Jalonnent un voyage infernal pour parvenir à rentrer chez soi. Alors, Joe, Rami, qu'est-ce que vous avez pensé de ce mastodonte de film ?
Joe, tu commences ou je commence ?
Vas-y.
Je suis chaud. Pas parce que tu connais Zendaya que c'est moi qui prends le lead,
on est égaux, toi et moi.
Alors, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, là, j'aimerais dire que tu poses des très belles questions.
Ah bah
là, vraiment, quand tu leads l'émission, je me sens vu, je me sens entendu. Là, tu as dit un truc vrai, c'est que c'est le film le plus attendu de l'année, même je pense en vrai, hors franchise, vu que c'est un film original, enfin adapté quand même.
On est un peu tous comme Pénélope finalement.
Voilà, on
attend Christopher Nolan.
Reviens à la maison, on sent qu'il a vu le film. C'est le film original, on va dire, ou en tout cas adapté de ce livre qui a 3000 ans, le plus attendu. Ça fait des années qu'on n'a pas entendu un film comme ça. Donc en fait, c'est un budget énorme, c'est un casting complètement dingue. Vous connaissez les noms, Pattinson, Tom Holland, Matt Damon, etc. Et Nolan, il s'attaque quand même à une des plus grandes histoires de l'humanité. Les attentes, elles sont fortes. Et donc moi, je trouve en fait, c'est un film qui est dans une catégorie à lui tout seul. Il doit pas être bien, il doit pas être super, il doit être à la hauteur des attentes de tous les spectateurs du monde entier. Et vraiment, moi, j'ai trouvé que le film était époustouflant. On connaît Nolan, il fait Oppenheimer, il fait The Dark Knight, etc. Mais là, il revient et dit, ok, Nolan, le réalisateur des films que t'as cité, qui s'attaque à l'Odyssée, ça doit être un film de fou. Et pendant des mois, on a entendu que le film a été tourné en décor réel, dans des lieux qui n'avaient pas été visités par les hommes depuis hyper longtemps. Et on ressent vraiment toute l'ampleur mythique du film. Pour Nolan, en vrai, c'est un pari fou de faire l'Odyssée quand même. C'est une ambition monstre et en fait, ça fonctionne parfaitement pour lui. Il aime les challenges. Il aime, comme tu l'as dit, les énormes histoires, tourner en IMAX, faire des grands, grands trucs. Et le film, il est hyper humain aussi. J'ai trouvé que c'est vraiment son film, peut-être le plus touchant.
Ouais,
je pense
qu'en
plus, c'est un film qui touche plein de générations différentes, vu qu'il y a plein de tranches d'âge différentes dans les acteurs qui jouent. Et c'est un film hyper humain, peut-être son plus touchant avec Interstellar, je pense. Et aussi, quand même, avec des scènes complètement épiques, mais aussi horrifiques. Joe, tu vas nous en parler, donc j'en parle pas trop.
Oui.
Mais je trouve que ça nous montre quand même même un nouveau pan du réalisateur. Moi, ouais. je suis allé en me disant, est-ce que Nolan, il va réussir à refaire comme Interstellar, etc. Mais en fait, c'est Nolan qui part dans une autre sphère. Ouais. C'est complètement réussi. J'ai pas peur de le dire avec ce film. Nolan, il monte d'un cran et il nous montre quelque chose de nouveau, de frais et de grandiose. Je pense que les gens vont devenir fous quand ils vont découvrir cette fresque nolanienne par excellence. Joe, à toi les studios.
Ouais, moi je pense que c'est pas beau.
C'est bon, je pars sur cette phrase, mais on fait tout sans moi.
Non, moi je trouve que c'est impossible de rester de marbre devant un morceau de cinéma comme celui-ci. Je pense que c'est une des choses qui me fascine le plus chez Christopher Nolan, c'est sa volonté d'explorer à chaque film de nouveaux territoires, mais en gardant finalement tout ce qui fait l'identité de son cinéma depuis le tout début, sans jamais céder aux tendances qu'il y a autour de lui. Christopher Nolan fait du Christopher Nolan avec l'Odyssée, mais il fait surtout dans l'épique comme il l'a jamais fait auparavant. Il s'empare de genres qui sont extrêmement codifiés et parvient à prendre les attentes à contre-pied avec des choix de mise en scène quand même toujours très audacieux, des partis pris narratifs qui sont hyper forts, et le tout, comme tu le disais, servi par un casting ahurissant. On va en reparler. Il y a aussi Charlize Theron, il y a aussi Zendaya, Lupita Nyong'o qui vraiment
on oublie de citer tellement le casting.
Anataway qui vole les scènes à chaque fois qu'elle est là, elle est incroyable d'intensité. Et puis j'y reviendrai, mais le film réserve aussi des moments de sidération totale où tu restes complètement fasciné par ce qui se passe à l'écran, tout simplement parce que c'est des choses que t'as jamais vues sur un écran de cinéma. Et ça m'a vraiment beaucoup plu.
Et c'est un plaisir de voir Nolan s'attaquer à ça, parce qu'il y a des moments, effectivement, on n'en parle pas, mais il y a des moments où on se dit, ah, c'est cool de voir Nolan dépasser juste la science-fiction et se dire, ah, il peut faire ça sur certaines scènes qui sont complètement dingues.
Toi, t'en as pensé quoi?
Mais moi, bah, évidemment, je partage votre ressenti parce que j'ai été absolument subjugué par le film, mais minute une. Et ça m'arrive, enfin, je vois beaucoup de films, tu vois, ça m'arrive pas hyper souvent en réalité d'avoir cette sensation très vite. Je m'attendais à aimer le film, hein, très sincèrement. Je savais que j'étais le public pour ce film, mais je m'attendais pas à l'aimer aussi rapidement. Enfin, vraiment, tout de suite, je me suis dit que c'était incroyable.
Bah, Nolan, il fait souvent des départs en trombe. Ça commence toujours assez vite avec des bonnes scènes d'intro. Et c'est que là, l'Odyssée, dès le début, en mode oh là là, le spectacle.
C'est clair. Mais je pense que ce qui a beaucoup joué aussi, c'est l'effet du 70 mm, parce qu'on a eu la chance de le voir en 70 mm et être projeté tel quel, c'est quand même une dinguerie. Oh. J'ai vraiment été impressionnée autant par les acteurs que les décors, que le réalisme qui se dégage, même le discours qu'il porte, parce que ça reste très actuel. On peut tous s'identifier au personnage d'Ulysse, notamment à travers cette idée d'empathie, que nos actes ont des conséquences. Enfin, moi, c'est des sujets que je trouve super forts et qui me touchent.
On devrait plus vivre sous les préceptes de Zeus, en fait.
Tout simplement. Faut le respecter.
On devrait vivre là-dessus. Et sur toute cette question d'empathie, justement, Anne Hathaway, on va l'écouter. Elle nous parle de ça.
Il y a l'expérience en salle, et puis il y a tout ce que le film laisse derrière lui. C'est ce qu'on entend de la part de tous ceux qui l'ont vu. Beaucoup nous disent qu'il a réveillé leur empathie. Ce film parle vraiment de compassion, d'empathie, de cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à imaginer ce qu'il vit. Au fond, l'idée est toute simple. Traiter les autres comme on aimerait être traité. C'est un principe très simple et pourtant on continue encore aujourd'hui à essayer de l'appliquer comme à l'époque où ce texte a été prononcé pour la première fois.
C'est très vrai.
C'est vrai que tu dis un truc vrai, parce qu'on sent qu'au début, quand on se dit oh, l'Odyssée de Nolan a fait un grand blockbuster, et finalement on se rend compte qu'il a digéré cette œuvre et qu'elle est hyper personnelle pour lui, qu'il avait vraiment un truc à dire au-delà de faire la bataille de Troie, mettre des grandes scènes d'action et tout. Il a un propos, lui, qui peut rejoindre un peu Interstellar sur en mode le retour à la maison, la famille, etc. Et qui est hyper, hyper touchant. Moi, ça m'a choqué de voir à quel point Matt Damon, son personnage, était travaillé et à quel point il y avait cette empathie et ce message qu'il voulait porter à
une humanité.
Comme un peu Oppenheimer sur cette fin de mode l'humanité, où est-ce qu'elle va. Même chose, on le disait, il y a un beau message.
Mais justement.
Absolument.
Nous avons donc à l'intérieur de ce récit, on a des héros, on a des soldats, on a des monstres, on a des déesses. Ouais. Le casting est incroyable, on vous l'a déjà dit, mais je pense que Rami, tu voulais vraiment revenir là-dessus, sur toutes les personnes qui interprètent nos personnages.
Tu le redises, là, je pense que c'est bien.
Mais parce que c'est hyper important.
Mais c'est hyper important, parce que surtout qu'en mode Nolan, il nous a habitués, comme dans Oppenheimer, à des castings de starbé, toujours avec des acteurs qui passent, etc. Genre dans Oppenheimer, il y a Gary Oldman qui a une scène, il y a Casey Affleck qui a deux phrases, il y a Rami Malek qui ne parle pas. Il y a Rami Malek qui ne parle pas, donc c'est Rami Malek en figurant. Et là, on se dit, ok, bon. Alors, je me suis dit au début, de quoi est-ce que je vais parler? Et je me suis rendu compte en sortant du film que Nolan, aspect technique incroyable et tout, mais c'est un des films de Nolan qui m'a le plus convaincu en termes d'acting. Parce que quand on pense au film du réalisateur, on a souvent en tête l'action, les twists, un peu la structure, etc. Mais quand même, ces films, ils nous ont livré certaines des plus grandes performances de l'histoire du cinéma. Je pense notamment à Heath Ledger, en Joker, Oscar posthume du meilleur acteur dans son rôle, Matthew McConaughey dans Interstellar, les séquences où il pleure avec ses enfants incroyables, et Cillian Murphy, qui avait gagné l'Oscar il y a 3 ans grâce à Oppenheimer. Et en vrai, quand on y pense, Nolan, il a une troupe. Il n'est pas considéré comme un grand directeur d'acteurs, mais il travaille souvent avec les mêmes acteurs. Il a des acteurs fétiches, Michael Caine, etc., Cillian Murphy, avec qui il travaille beaucoup. Et dans ce film, on retrouve certains de ses petits joujoux, mais aussi des nouveaux acteurs avec qui il collabore pour la première fois. D'abord, on va parler de Ulysse, du personnage principal, Matt Damon. Moi, je vais être honnête avec vous. Quand on a annoncé Matt Damon en Ulysse, j'avais un tout petit peu peur, parce que j'avais dans ma tête, je sais pas, une image d'Ulysse un peu différente. Je me disais, Matt Damon, il fait un peu américain, etc. Je me disais, est-ce que j'avais pas une autre image de ce personnage? Et finalement, Damon, qui a travaillé avec Nolan quand même sur Interstellar et Oppenheimer, vraiment il s'adore les deux et qui était super dans Interstellar, dans le rôle un peu du méchant Dr. Man, incroyable. Il est tout simplement en fait l'acteur parfait pour le rôle. Nolan aussi il le pense parce que selon lui, Matt Damon, en fait, il a dans la vie un peu les mêmes qualités d'Ulysse. C'est vraiment des qualités de leader. Il savait que ça allait être un tournage éprouvant, compliqué. Ils allaient faire beaucoup de randonnées pour monter sur les lieux de tournage. Il savait que Matt Damon, c'était l'acteur parfait pour ça, dans ses qualités humaines. Et derrière, Matt Damon qui a dit oui pour jouer dans le rôle, sans lire de script. Il a dit à sa femme, j'ai envie de faire une pause. Et finalement, Nolan l'a appelé. Il lui a dit deux mots. The Odyssey. Il a dit bon, bah, on va bosser pendant 6 mois.
Allez, attends, mais c'est hilarant parce que c'est comme la pause. Enfin, je veux dire, il y a une différence entre j'arrête ma pause et je fais The Odyssey.
Je travaille pas chez mes gosses et ils voient Nolan sur le fixe. Oh non, qu'est-ce qui se passe là?
Qu'est-ce qu'il a encore?
Et donc il a dit oui directement à The Odyssey. Il a dit vas-y, on le fait. Et donc c'est au milieu de ces corps somptueux, de ces batailles en fait, de tout ce que vous avez parlé sur l'aspect technique, vraiment le côté extrêmement beau du film, de grosses caméras IMAX. Mais au milieu de tout ça, il y a un homme imparfait, un homme rusé qui vraiment va réussir à gagner des guerres, un leader d'homme incroyable. Mais en fait, dans sa ruse et dans ses inventions et dans ses idées brillantes qui vont le faire en fait gagner toutes ces guerres, en fait, il va y avoir des conséquences qu'il va devoir payer. Et en fait, cette histoire, c'est vraiment les conséquences de nos actions et comment rentrer à la maison. Et en fait, c'est un rôle énorme parce que dans l'imaginaire collectif, on a tous un peu l'image des Grecs, on a Brad Pitt dans 3, etc. Ouais. Matt Damon est incroyable. Mais aussi, je l'ai dit, et je vais me répéter, j'aime me répéter parce que j'ai envie que l'émission dure le plus longtemps possible. J'aime pas être chez moi.
On est bien parti là, je crois.
C'est un peu long. Nolan, c'est un film extrêmement humain et je pense qu'en fait, on a l'impression que Nolan a choisi en fait plein de stars pour enflammer le box-office, mais non, il a sûrement bien casté tout le monde. Par exemple, il y a Anna Hathaway en épouse, en mère, en reine d'Ithac, qui vit endeuillée depuis 20 ans dans l'attente d'Ulysse. On sent dans la performance d'Hathaway mais toute une douleur, une complexité et aussi une subtilité incroyable. Ouais. Et vraiment, je trouve qu'Anna Hathaway, c'est une performance en fait qui rappelle quelle grâce en tant qu'actrice, quelle
autorité,
et que
soudain il faut l'écouter. J'ai aussi aimé le traitement de, il y a Ridley Scott qui fait ça parfois où en fait ces personnages féminins qui sont des figures comme ça, il y a très peu voire pas de maquillage, c'est très naturaliste et ça donne encore plus de force je trouve à la partition d'actrice quoi.
Ouais, elle est vraiment incroyable en fait, elle tient le film parce que effectivement tout ce côté Odyssée etc, mais à la maison Ithac elle a un duel avec Tom Holland de savoir qu'est-ce qu'elle va se remarier, est-ce qu'elle va attendre son mari, et dedans elle a une subtilité et une force qui est exceptionnelle. Et donc elle joue face à Tom Holland qui va jouer Telemachus, j'ai bien aimé en anglais, Telemachus. Qui joue le fils du coup d'Ulysse et de Matt Damon et d'Anne Hathaway, à Tom Holland qui, ça y est, passe à l'âge adulte avec une performance de choix. Ouais. Il a joué des enfants, il a joué des adolescents. C'est le premier vrai rôle où on voit l'apprentissage, on voit un peu comment il grandit et comment il évolue. Et vraiment, Tom Holland, il est exceptionnel dedans. En fait, au début, je me demandais quelle performance on allait voir de lui. Et en fait, on voit vraiment l'éventail complet de son acting. C'est l'histoire d'un fils qui veut protéger le royaume mais qui n'y arrive pas. Il n'a pas la force physique de son père. C'est hyper intéressant parce qu'on sait que Tom Holland, c'est quelqu'un d'extrêmement physique, à l'aise avec les scènes de combat, etc. Et carrément, il est tellement physique et ça ne collait pas avec son rôle que Nolan, sur le tournage, il a dû dire à Tom Holland arrête d'être aussi bon là, en mode là on dirait vraiment c'est pas possible, là, on dirait
rien à Cassie,
t'es trop fort et tout, il faut que t'arrêtes, t'es censé jouer un mec hyper vulnérable qui n'est pas à l'aise dans le combat etc, et Tom Holland il arrive à être vulnérable, touchant, alors quand même il donne la réplique des mastodontes quand même, avec Matt Damon, Anna Hathaway, aussi John Leguizamo
qui
est exceptionnel, Benny Blanco forme de Bronx dans le film L'Impasse, John Leguizamo, quel acteur ici qui vraiment commande avec sa présence, John Bernthal, l'exceptionnel acteur du Punisher, de Wall Street etc, ou encore pour moi vraiment l'acteur qui tire son épingle du jeu, qui m'a vraiment transporté, Joe, est-ce que tu es du même avis, Lala aussi, Robert Pattinson.
Robert Pattinson qui prend énormément de plaisir, j'ai l'impression,
énormément
à jouer son
plaisir,
rôle.
Et là où il avait joué en fait un gentil dans Ténèbres, vraiment il joue un peu ce mec charismatique, un peu sauveur, là il joue un méchant mais d'un genre différent, il apporte vraiment une nouvelle couleur. Il est vicieux mais c'est aussi un lâche, j'adore moi cet équilibre entre il est très vicieux, il pense qu'il est cool mais c'est le plus gros lâche de toute la cité d'Ithac. Et Pattinson lui donne vraiment une nouvelle couleur, on voit son visage parfois crispé de gêne ou de haine et parfois il envoie des rires, on dirait vraiment que c'est une hyène. Vraiment je trouve qu'il est déchaîné. Et Nolan qu'il avait casté en sauveur dans Ténèbres, là ils vont en lui méchant parfait, c'est trop trop cool. Mais à Charlize Theron en Calypso, qui joue vraiment un rôle essentiel dans le film, qui est envoûtante. J'ai vraiment trouvé qu'elle était presque un spectre. Vraiment, son rôle, il est dur à saisir. On se demande est-ce que c'est une apparition, est-ce qu'elle existe vraiment.
Il y a beaucoup de nuances dans ce qu'elle te laisse interpréter de son personnage. En fait.
On est là en mode, ok, elle est méchante. En fait, non, c'est vraiment j'en dis pas plus sur Charlize Theron parce que c'est une partie vraiment, je trouve, hyper centrale du film. Il y a Zendaya aussi. En Athéna, il y avait un peu eu du bruit sur le casting, etc. Elle est vraiment d'une présence, elle aussi. Ouais. C'est vraiment ce qui se rapproche le plus d'une déesse, je pense. Et Lupita Nyong'o qui ne joue pas Hélène de Troie, ou devrais-je dire pas que, parce qu'elle joue deux rôles en fait dans le film. Hélène de Troie et sa sœur jumelle, Jo.
Qui s'appelle comment?
Ah ben je dois y aller, moi je dois foncer, j'ai un autre podcast à côté.
Clytemnestre.
Clytemnestre?
Clytemnestre.
Clint Eastwood. Alors elle joue Clint Eastwood avec Clytemnestre. Et elle est exceptionnelle aussi dans le rôle, vraiment elle a une force. Ouais. Vraiment, c'est Nolan a su caster. C'est un grand directeur d'acteur. Vraiment, je pense que les gens doivent aller voir ce film pour le côté visuel, mais aussi pour voir certains de leurs acteurs préférés se déchaîner dans des rôles. Et vraiment, avant qu'on passe à vous, j'aimerais qu'on passe à mon ami d'enfance, Matt Damon, qui nous explique quand même aussi avec admiration, parce que même pour eux, c'est dingue d'avoir joué avec autant de grands acteurs, le talent de ce casting incroyable.
Le casting est incroyable. J'ai vraiment eu l'impression que chacun s'était glissé naturellement dans son rôle. Ils ne jouaient plus un personnage, ils étaient ces personnes. Et pour moi, c'était très facile, parce que je passais d'une histoire à l'autre, d'un personnage à l'autre. C'était une expérience incroyable. J'ai toujours dit qu'un grand acteur joue aussi une partie du travail pour vous. Il suffit de le regarder et on est immédiatement happé par son univers. J'ai eu la chance de vivre ça avec tous ces acteurs. Certains avec qui j'avais déjà travaillé, d'autres non. Quand on voit tous les noms réunis au casting, c'est vraiment impressionnant. Mais une fois le film lancé, on oublie complètement les acteurs. On voit juste ces personnages et on est totalement plongé dans ce monde qui paraît incroyablement réel.
Ah non, on sent vraiment que, on sent quand il dit en mode un bon acteur est bon pour nous deux. On sent que dans chaque scène, il y a des duels qui sont d'une intensité. Qui
ou
sont
des duos.
Ou des duos,
mais
ouais.
Tu
ou
vois,
des duos.
C'est effectivement, ça fonctionne très très bien. Les scènes à deux sont souvent très très fortes. Et c'est vrai que le personnage d'Ulysse passe tout le film à pas forcément se confronter, mais à rencontrer
une nouvelle personne
et à interagir avec. Et ça tourne d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et là, c'est vrai que l'alchimie entre tout le casting fonctionne vraiment à ce moment-là.
À chaque étape, c'est un plaisir de dire, oh, c'est cette personne.
C'est vrai. Et en plus, c'est trop bien parce que tous les personnages ont énormément de nuances, tu vois, peu importe le temps qu'ils ont à l'écran, il y a beaucoup de profondeur. Moi, il y a un truc dont je voulais vous parler parce que ça m'a beaucoup touchée, c'est la cohésion d'équipe et l'aspect technique du tournage.
On est parti pour 4 heures.
On est parti.
On va se prendre un café, on revient. Vas-y, pense aux auditeurs.
Je suis vraiment trop contente de pouvoir vous en parler parce que.
On sent. On le sent.
Parce que moi, je travaille sur les tournages. Ouais. Donc, c'est. J'ai fait l'Odyssée, je te l'ai pas dit. Non, mais j'arrêtais pas de me dire pendant tout le film que ça a dû être une expérience incroyable pour toute l'équipe. Alors oui, les comédiens évidemment, mais aussi les techniciens. Et bah déjà, bosser avec Christopher Nolan.
Ça va être pas mal.
Je pense que tu trouves
du boulot derrière quoi.
Non, en fait, je trouve que
une ligne
tout
sur
le
CV,
monde,
j'ai fait l'Odyssée. Et bah oui.
Et bah voilà, après c'est bon pour la vie. Mais tout le monde a un souci du détail qui est assez dingue. Et je pense que chaque personne qui a travaillé sur le film est considérée comme l'une des meilleures personnes pour bosser de manière technique. Quoi. Donc, on l'a dit, c'est le tout premier film qui est tourné avec des caméras IMAX. Mais en fait, c'est assez énorme. En fait. On ne s'en rend pas compte forcément dit comme ça. Mais il faut savoir que ça a été un rêve pour Christopher Nolan. Je crois qu'il rêve de ça depuis qu'il a 16 ans. Quand même, ça fait longtemps.
Ça fait un bail quand même.
Sauf que pour y parvenir, il a fallu créer quelque chose de nouveau. Et oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais les caméras IMAX sont en réalité extrêmement bruyantes.
C'est des camions, quoi. C'est gros comme des camtars.
Et ça peut énormément déstabiliser les comédiens, en fait, sur le tournage, parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais quand on est Christopher Nolan et son équipe, on ne renonce pas aussi facilement. Ils sont allés voir IMAX et ils leur ont demandé de créer une caméra moins bruyante. Et donc IMAX est revenu vers eux en leur créant en effet une nouvelle caméra, plus un blip. Et un blip, qu'est-ce que c'est? C'est comme un énorme caisson qui va atténuer le son de la caméra d'environ 30%. Et l'ensemble, la caméra plus le caisson, c'est extrêmement lourd. J'ai vu des images du making-of, ils sont genre à 4 pour le transporter.
T'as vu la taille de la caméra? J'ai regardé des images, moi, elle est choquante, la caméra IMAX.
À ce moment-là, Christopher Nolan est donc devenu le premier cinéaste à l'utiliser et le rendu est incroyable. C'est quand même un film qui dure 2h50 et pour ça, petit fun fact, il a fallu beaucoup de pellicules, vu que c'est un film tourné en pellicule, je pense que vous avez compris. Et sachez que pour 2h50, 52 films, il faut une distance qui équivaut entre Toronto et New York de pellicule.
Ah ouais.
Voilà, un petit trajet.
Il bosse, lui. C'est pas mal, travaille, le mec. Toronto, New York, en pellicule.
Ouais,
après, ils nous ont offert des petits bouts de pellicule. Ils avaient un surcoin. Parce que pour dire aux gens, au Grand Rex, ils nous ont du coup offert un petit une truc de pellicule de l'Odyssée.
Le
c'est
Kodak.
Magnifique, ouais,
oui.
Le Kodak, c'est incroyable.
Mais cette caméra, elle a aussi une autre particularité. Elle ne permet d'enregistrer que 3 minutes avant de devoir changer la pellicule.
Bon, elle a beaucoup de particularités complexes, quand même. C'est quoi ce rêve de Nolan dans Madonna?
Alors, sur le papier, c'est pas très pratique, mais du coup, le premier assistant en caméra, il s'est entraîné à recharger les bobines le plus vite possible afin que les comédiens et toute l'équipe fassent des sortes de micro-pauses avant de reprendre immédiatement. Mais donc, ça n'avait pas beaucoup d'impact. C'était un peu un balai à essayer de trouver pour
toutes les 3 minutes.
Ça a eu beaucoup d'impact, mais je pense que ça doit être à mettre en place. C'est du taf.
C'est fou, quand même.
Et même, la caméra, elle est assez énorme quand on regarde à quoi ça ressemble, et ils ont inventé aussi un système de miroir pour que pendant les chants contre chants, les comédiens puissent se voir, parce que sinon c'était un petit peu caché. Et c'est absolument
fascinant. J'ai vu des photos de ça, c'est intéressant, parce que sinon en fait elle fait la taille d'une smart, cette caméra. C'est une smart, et tu vois pas le mec derrière toi. Si tu joues en chant contre chant, tu ne vois pas la personne derrière toi. Donc ils ont mis des petits miroirs pour se voir, et ça marche très bien.
Et c'est un style de film qui impose aussi une autre contrainte. Comme tout est extrêmement réaliste, on voit absolument tout, et c'était un défi pour le département costume. En fait, on ne peut pas tricher avec cette caméra. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les armures, elles ont été vieillies à la main grâce à de la patine chimique, grâce à des véritables frottements d'usure avec des vrais impacts. Enfin, ils se sont donnés, ils n'ont pas juste vieilli artificiellement les
genre
costumes.
Ils ont mis des flèches, ils ont mis des coups pour
en
mettre que ça paraisse.
En fait, il fallait que tout puisse respirer. Les intempéries, la sueur, la violence, des hommes qui ont combattu, qui ont passé des mois en mer, il fallait que ça se ressente parce que la caméra voit tout. Et c'est ce souci du détail qui nous permet d'aller encore plus loin dans le film. Il y a aussi une anecdote que j'aime bien. Il y a un décor dans le film, c'est le château d'Ithac. Et ben, il faut savoir qu'il n'était pas accessible par une route. Il était situé en haut d'une montagne. Et ils ont demandé, mais c'était impossible de construire une route pour y aller. Il faut savoir que des fois sur les tournages, ça arrive qu'on puisse construire des routes pour des tournages assez longs et de cette envergure. Là, c'était pas possible. Donc, ce qu'ils ont décidé, c'est de construire un funiculaire pour transporter le matériel. En effet, bonne idée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des acteurs et l'équipe, dont Christopher Nolan et Robert Pattinson, faisaient l'ascension tous les jours et en costume, s'il vous plaît.
À pied. Randonnée tous les jours.
Tous les jours pour monter là-haut pendant 3 semaines de tournage. Et ce qui est super là-dedans, c'est que ça a permis une cohésion d'équipe assez folle. Et ça a permis de nourrir le réalisme. Parce que d'un coup, t'es très proche quand même de gens où tu te fais une randonnée avec eux.
Et puis quand t'as la caméra, ensuite, il faut que tu sentes la sueur et l'épuisement. Là, c'est bien, c'est, tu l'as.
Exactement.
Tu l'as naturellement.
Nolan, il fait dans le BTP. Les mecs, ils font des chocs contre chaleur. Ils vont me faire mettre un funiculaire ici, peut-être un tire-fesse là-bas. On va voir ce qui se passe là.
Et cette cohésion d'équipe, elle a en effet marqué tout le monde. Justement, je vous propose qu'on réécoute Matt Damon qui va nous parler de cette cohésion.
Je peux dire en 2 secondes, quand vous verrez le film, c'est vrai que cette colline d'Ithac, elle est tellement. Parce que les gens se disent peut-être que c'est une petite randonnée et
tout. Non,
c'est un travail.
Elle
est pendue.
C'était une opportunité incroyable. Honnêtement, c'est l'une des plus belles expériences de ma vie. Parce que c'était un défi immense, pas seulement pour moi, mais pour toute l'équipe. Chaque semaine, le vendredi soir, on terminait le tournage en se disant « On a vraiment réussi à faire tout ça cette semaine ?» Il y avait ce sentiment d'accomplir semaine après semaine quelque chose d'extrêmement ambitieux. L'histoire est évidemment épique. Elle existe depuis 3000 ans. Mais la manière dont Chris voulait la raconter, tout tourner en conditions réelles, ça demandait énormément à tous ceux qui ont travaillé sur le film. Chacun a dû aller bien au-delà de ce qu'il avait déjà fait auparavant. En repartant, je disais à tout le monde que je n'avais jamais été aussi fier de faire partie d'une équipe. C'était une aventure vraiment exceptionnelle. Et je suis heureux que le public ressente aujourd'hui tout ce qu'on a vécu en le faisant.
Vous voyez, cette cohésion d'équipe, elle se ressent aussi vraiment dans le film. Et je vais être franche avec vous. Il y a encore
Il y a
encore énormément de choses à dire sur la conception du film. C'est absolument fascinant, mais ce podcast ne dure pas 4 heures, malheureusement. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est ce souci du détail et cette recherche permanente du réalisme, tout en parlant de mythologie en réalité. Pour donner un autre exemple, l'équipage d'Ulysse a réellement appris des techniques d'aviron pour navigation à la voile.
Ça rame énormément.
Ça rame beaucoup.
Jusque-là, ça va dans le réalisme.
Ils ont les bras, on se dit qu'ils ont ramé. On a l'impression, on se dit, c'est possible.
Exactement. Et quand on se donne à fond comme ça, sans tricher, avec l'envie d'offrir aux spectateurs une véritable incroyable expérience immersive, parce que c'est ça, et bah ça fonctionne en fait. Et quand on reste fidèle aussi, ça fonctionne parce que on ne l'a pas dit, mais Christopher Nolan a déjà travaillé avec certains de son équipe technique, notamment son chef opérateur Hoyt Van Hoytema, qui avait déjà collaboré avec lui sur Oppenheimer et Interstellar, ou encore Dunkerque aussi d'ailleurs. Et la musique qui est sublime, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais incroyable, qui est composée par Ludwig Göransson, qui était aussi à l'origine de celle d'Oppenheimer. Voilà, Joe, j'ai fini mon tunnel d'explications techniques. Je vais te laisser la parole.
Mais t'es obligé de te donner à 100% quand tu parles d'un mec qui invente des caméras.
Ah, mais bien sûr.
Ça va être un plaisir pour eux de monter une truc et se dire, oh, là, c'est un film qui dépasse tout, quoi.
Mais ça me fait une bonne transition, cette musique, cette partition de Ludwig Göransson, parce que je trouve que justement les moments dont je vais parler, la mise en son du compositeur joue énormément sur l'atmosphère qui est installée, parce qu'il y a un truc qui m'a moi frappé, entre autres, il y a plein de choses qui m'ont frappé, mais je voulais revenir sur ce détail là et vous allez peut-être vous dire, mais il est fou, qu'est-ce qu'il lui prend, c'est l'aspect finalement assez horrifique de certaines séquences clés du film, à tel point que je me demande si Christopher Nolan parfois il a pas inséré comme un petit court métrage d'horreur, des petits courts métrages d'horreur dans son film. Alors ça ne phagocyte pas du tout le reste, le film reste cohérent du début à la fin, mais il y a des moments comme ça où j'étais un peu pris et je m'accrochais à mon siège parce qu'il y avait les codes de ça qui étaient utilisés. Je rappelle que chez Christopher Nolan, l'horreur c'est toujours resté très en retrait. Il est jamais allé là-dedans. On a dans ses films parfois des choses qui se rapprochent de l'horreur psychologique, on va dire, mais il a jamais abordé le genre aussi frontalement et physiquement que dans l'Odyssée, et ça donne lieu à des moments où on s'accroche à son siège. Je pense à l'épreuve du cyclope par exemple. On va pas spoiler, c'est dans la bande-annonce, mais vous le savez, il y a le cyclope dont le public a vu des images, mais les images qu'on voit, c'est rien à côté de l'épouvante que représente cette scène. Enfin, je dis cette scène, mais en fait, c'est un survival en huis clos.
Ça dure un petit moment.
Et c'est incroyable.
T'es pas habitué à ressentir ça dans un Nolan.
Exactement.
Et moi, ça, il y a des moments, je me dis, oh, c'est fou Nolan, le montage, l'action. Et à des moments, j'étais en mode, waouh, mais on est chez qui
Et il y a les décors qui sont un peu malsains, l'atmosphère oppressante, l'éclairage naturel au feu. Ça renforce vraiment l'atmosphère, le design du cyclope qui s'écarte quand même complètement des standards hollywoodiens pour aller vers quelque chose de plus dérangeant, de plus physique.
Un peu Del Toro, un truc comme ça.
Avec des moments qui évoquent les peintures de Goya, je pense que ça a été une très grosse inspiration, surtout celle de Satan dévorant son enfant.
La
peinture fait flipper. Bref, c'est complètement dingo ce passage, vraiment. Dans le rôle du cyclope, il y a quand même quelqu'un. C'est Bill Irwin, qui est un acteur très physique, très anguleux. Et au-delà de ça, Nolan, il a eu recours à de nombreuses techniques qu'il a apprises depuis le début de sa carrière. D'ailleurs, il en a beaucoup parlé. Il a dit que l'Odyssée, c'était en quelque sorte, il n'a pas utilisé le mot film somme, mais c'est le film sur lequel il a dû bénéficier de toute l'expérience accumulée sur ses films précédents, et qu'il a dû tout rassembler pour faire celui-là. Et donc, il a eu recours à plein de techniques pour donner vie à ce monstre, entre autres. Donc, il y a évidemment des prothèses, il y a du maquillage, il y a aussi du vieillissement numérique, il y a de la boue, de la véritable boue qui a été balancée sur l'acteur pour lui donner cet aspect. Bill Irwin, il dit qu'en tant qu'acteur dans ce genre de situation, il fallait se faire à l'idée qu'on était traité comme une surface, un canevas, et qu'il fallait être prêt à absorber la conception que l'équipe créative avait des couleurs, de l'ombre, de la texture, mais le résultat est là. Et moi, j'avais encore jamais vu un truc pareil sur grand écran.
C'est un team player, Bill, il est sympa.
Ensuite, il y a aussi un très grand moment qui est peut-être le moment où je me suis senti le plus investi dans ce qui se passait. C'est lorsqu'Ulysse et ce qui reste de ses hommes font la rencontre de Circé. Ici, alors, on va pas spoiler parce que ça, on en a pas vu beaucoup, mais si vous avez lu les livres, vous savez que la mythologie de Circé, c'est que c'est une magicienne spécialisée dans l'art des potions et des métamorphoses. Voilà. Et là encore, Nolan, il opte pour une approche très réaliste, où on bascule dans un conte pour enfants un petit peu sombre. Tu vois, je me suis dit, il faut qu'il fasse Hansel et Gretel, en fait, après Christopher Nolan, ça va être super pour lui, vu ce que je vois là. Et plus sérieusement, dans cette séquence, on retrouve des marqueurs d'horreur païenne, un petit peu.
Exactement,
donc, il y a quelque chose, un aspect très folklorique qui se dégage de ça, ça fait peur, et on sent que c'est un exercice de style dans lequel Christopher Nolan a pris beaucoup de plaisir. Et ça, c'est chouette parce que ça reste ludique, c'est pas faire peur pour faire peur, ça sert l'histoire, mais tu vois aussi un réal qui se fait plaisir, et ça c'est cool.
Et l'exécution fait peur, et la façon dont la caméra elle bouge, tout ça et tout, c'est un truc comme on a l'impression comme Del Toro pour les super bien faire Robert Eggers, et là Christopher Nolan il nous montre que il sait créer il sait déranger avec sa caméra.
Et là il a fait appel à un collaborateur de longue date qui s'appelle Connor O'Sullivan, qui avait reçu un Oscar pour son boulot boulot sur The Dark Knight, notamment sur les créations de prothèses du Joker et de Double Face, qui à l'époque avait été assez folle et pareil détournait un peu les attentes. La première fois qu'on a vu les images du Joker, je me souviens que tout le monde était là genre mais c'est pas le Joker ça, et puis ensuite tu vois le film et t'es là genre bah si,
bah, c'est le Joker, c'est complètement lui. Le meilleur Joker,
donc c'est lui qui a créé toutes les prothèses et les animatronics, parce qu'il y a beaucoup d'animatronics dans cette scène qui ont été nécessaires, vous verrez, il y en a vraiment pas mal. Et à mon avis, d'ici à ce que le mec récupère son deuxième Oscar sur un film de Christopher Nolan, il y a pas des kilomètres, l'avenir nous le dira. Et puis il y a Samantha Morton, je sais qu'on a beaucoup parlé du casting, mais je voulais appuyer sur Samantha Morton dans le rôle de Circe, parce qu'elle est absolument géniale.
C'est vrai,
faut le dire. Je sais pas si vous connaissez les jeux vidéo Dark Souls, Elden Ring, tout ça, mais moi je pense que Christopher Nolan il connaît.
Je pense
même qu'il y a joué et qu'il a inclus ça à d'autres moments du film, particulièrement les passages qui proposent différentes approches de ce genre. On a le film de monstres avec le cyclope, on a de la fantasy très sombre également avec une scène de revenant qui là encore contourne les genres habituels. Il y a pas de, je vous rassure, il y a pas de zombies. Vous allez pas avoir une armée à la Walking Dead dans l'Odyssée.
C'est très atmosphérique.
Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait aussi. Donc moi, voilà, j'ai pris un vrai plaisir de cinéma devant l'Odyssée, en grande partie grâce aussi à ces moments de tension, de fascination, un peu d'épouvante. Je trouve que Nolan va où il était encore jamais allé, tout en gardant son style à lui, son identité. Et il y a des tours de force techniques, t'en parlais, là, qui sont toujours là pour accompagner le jeu d'acteur, le jeu d'actrice, pour faire avancer ce récit épique. C'est vraiment du grand art.
Tout ce qu'il fait d'habitude, l'action, le montage, trouver les thèmes, il le fait bien. Et là, c'est vrai qu'il a, il va dans une nouvelle direction où il mêle un peu tout ce qu'il a fait, effectivement, dans le biopic, dans l'action, dans les films de guerre, etc. Et là, ces scènes dont tu parles, c'est des scènes qui, même si c'est l'actrice dont tu parles, Samantha Morton, c'est vrai qu'en sortant du film, tout le monde parlait d'elle. Tout le monde parlait de cette scène, tout le monde parlait d'elle.
Elle vole à un moment.
Et à un moment,
En fait, il y a un film avec tout un casting, et à un moment, tu vois que elle. Parce qu'elle est magnétique, quoi.
Et vu que Nolan, il bosse beaucoup avec des stars, parfois on oublie qu'en fait c'est un super directeur d'acteur ou c'est un super. Ou qu'il s'est très bien casté pour des rôles.
Il sait leur faire confiance, voilà. Il caste et ensuite il laisse ses acteurs s'exprimer.
Il laisse jouer,
et le talent est là. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et ce que je trouve chouette avec ce film, je pense que c'est pareil pour vous toutes et tous, c'est qu'au-delà de l'œuvre dans son entièreté, moi j'aime quand au cinéma tu sors et des semaines plus tard, des années plus tard, tu vas te souvenir de moments de cinéma que t'as vécu. Tu vois, la première fois que tu vois Matrix, c'est la scène t'es des scènes comme ça qui sont figées dans ton cerveau, et je pense que dans l'Odyssée il y en a, et je pense au public potentiellement un peu plus jeune qui découvre le cinéma un peu avec le cinéma de Christopher Nolan, qui va aller voir l'Odyssée. Je sais pas, quand t'as 13-14 ans, que tu vas voir un film comme ça, ça construit ta grammaire cinématographique avec des scènes hyper forte. On n'a pas parlé du cheval de Troie et tout
c'est incroyable, je pense que tu
vois ça sur grand écran quand t'es jeune, c'est ouf.
Ça peut être l'interprétation définitive de Troie, etc.
Typiquement le genre de film qui en vrai peut faire des révélations,
créer des vocations
à des jeunes, en se disant mais en fait je veux faire, non seulement je veux faire du cinéma, c'est une chose, mais je veux faire ce type de cinéma avec ce matériel là, avec cette manière de diriger, avec ce réalisme tu vois, qui change en fait de tout ce qu'on peut avoir avec énormément de fonds verts où aujourd'hui tout est très numérique, très lisse. Ici il y a même un aspect un peu crado, c'est palpable.
C'est un vrai grand film d'action, parce qu'on se dit le monde est grand, c'est large et tout est tourné en décor réel, donc t'as l'impression de voir la grandeur et t'as l'impression vraiment de voir la mythologie.
Tourné dans 6 pays différents,
six
quand même,
pays
le truc. Les petits globe-trotteurs, ils étaient là avec leur caméra et Max sur le dos. Allez, c'est parti, on va au Groenland.
C'est fou
parce que c'est l'aventure d'une vie à la fois dans le film et en même temps sur le tournage.
C'est vraiment un film à la hauteur des attentes. Il a la hauteur des attentes et les attentes étaient tellement hautes. Et voir ce film, je pense que les gens vont. Je pense vraiment que les gens qui va taper très fort, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va être l'avenir de ce film.
Nul ne peut se dresser entre moi et ma patrie. Pas même les dieux.
Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cet épisode du Breakfast Ciné Club. Je vous rappelle que l'Odyssée, c'est actuellement au cinéma et que vous décidiez d'aller le voir en IMAX, 70mm ou simplement dans votre cinéma de quartier, foncez découvrir ce film événement de cet été. Et vraiment, c'est du grand spectacle qui signe le retour de Christopher Nolan. Et en attendant, bah nous, on vous souhaite un très bel été et on se retrouve à la rentrée.
Mais oui, passez de bonnes vacances.
Allez, bonnes vacances.
Bye bye.
Breakfast
Ciné Club.